Ce sont des pour la fête de la Sainte Famille, l'Église nous propose des textes qui ne sont pas forcément si évidents. Abraham et Sarah. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vie d'Abraham et Sarah, mais c'est un peu original comme vie familiale quand même. On y reviendra. On a les figures de Siméon, un vieillard, et de Anne, une veuve ancienne aussi, et puis de Joseph et Marie. Et ce qui fait qu'aucun des couples qui nous ont proposés ici ne semble vraiment normal. Peut-être que ce qui les rapproche d'abord et avant tout et essentiellement, c'est leur relation à Dieu. Alors on va revenir sur la relation à Dieu d'Abraham. Abraham, dans le texte qu'on a entendu, Dieu s'approche de lui. C'est Dieu qui s'approche, qui vient à la rencontre d'Abraham et qui lui dit « Ne crains pas, tu auras une grande récompense ». Et là, Abraham se tourne vers Dieu et lui dit « Une grande récompense alors que j'ai pas d'enfant ? J'ai 75 ans quand même. » Et Dieu lui dit « Je te donnerai une descendance tellement nombreuse qu'on ne pourra pas la compter, autant que les étoiles du ciel, que les sables, que les grains de sable sur une plage. » Et de fait, Abraham fait confiance à Dieu. C'est ce que nous dit la lettre aux Hébreux d'ailleurs. Ce qui est caractéristique d'Abraham, c'est sa foi. Il fait confiance à Dieu. Il est capable d'entrer dans une relation qui n'est pas, à l'époque d'Abraham, normalement la relation entre Dieu et l'homme, c'est Dieu très loin et l'homme à plat ventre. Et là, Abraham accepte d'entrer dans une relation qui est une relation de confiance, une relation de fidélité, une relation de foi. Deuxième caractéristique de cette relation, c'est Dieu qui s'approche d'Abraham et qui lui propose une alliance. Et vous savez que pour faire alliance, il faut se considérer l'un l'autre comme des égaux. S'il y a un déséquilibre au sein d'une alliance, très rapidement ça devient un protectorat ou une forme d'esclavage. Donc là, on a une alliance où Dieu se fait l'égal d'Abraham, où Dieu élève Abraham à son niveau. Et enfin, la troisième caractéristique d'Abraham, c'est qu'il est juste. C'est ce que nous dit encore la lettre aux Hébreux. Juste, il faut le penser dans une relation encore. Celui qui est juste, c'est celui qui a la bonne note par rapport aux autres, celui qui est accordé. Un piano qui est juste, c'est qu'il est sur la bonne note, quoi. Donc Abraham, il est ajusté à la volonté de Dieu, donc il est juste. Il est comme l'écrou qui va bien sur la vis, quoi. Alors, c'est vrai pour Abraham, c'est vrai aussi pour Sarah. C'est encore ce que nous dit la lettre aux Hébreux. Sarah, elle aussi, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. Pensez bien, au moment où elle entend cette promesse, elle a 75 ans et elle aura son fils, Isaac, quand elle en aura 100. Donc déjà, à 75 ans, c'est déjà énorme. Alors à 100 ans, n'en parlons pas. Alors on a cette image d'Abraham et Sarah qui ont une relation avec Dieu. Et en fait, on pourrait faire le même travail sur Siméon, dans sa relation avec Dieu, qui lui aussi fait confiance, qui croit que les promesses de Dieu seront tenues. C'est vrai pour la prophétesse Anne, c'est vrai pour Marie et pour Joseph. Foi, fidélité, confiance, alliance et ajustement à Dieu. Finalement, ces trois mots, ces trois idées, ces trois thèmes de confiance, d'alliance, d'ajustement, est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser pour une autre réalité ? La réalité du mariage. Est-ce que vous qui êtes mariés, vous ne vous faites pas confiance l'un à l'autre? Est-ce que vous n'avez pas engagé votre foi pour l'autre? Est-ce que vous n'avez pas choisi la fidélité? Est-ce que vous n'avez pas fait alliance pour être dans une relation d'égal à égal et vous engager pour vivre un projet commun? Est-ce que vous n'êtes pas en permanence en train de faire ce travail d'ajustement l'un vers l'autre? C'est un combat, hein? De fait, la relation à Dieu et la relation des époux dans le mariage, elle est assez ressemblante quand même. Et vous le savez comme moi, c'est aussi bien pour notre côté, dans le cadre de la relation avec Dieu, c'est un combat, c'est un travail permanent qu'il nous faut remettre sur le métier. Et vous le savez aussi, dans le mariage, sans cesse, vous reprenez ce travail. Et parfois on rate, hein. Et là encore, on peut repenser à Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, ils ont entendu la parole de Dieu. Et puis ça ne va pas les empêcher de se dire, bon, puisque la promesse de la descendance, elle ne vient pas, eh bien on va mettre la charrue avant les bœufs, ou je ne sais pas, on va demander à Agar de faire mère porteuse. C'est ça, hein, concrètement. Ismaël, c'est un enfant issu d'une mère porteuse. Et puis, il y aura le bébé du miracle, Isaac, qui naît bien après le temps prévu pour qu'il naisse. Et cet enfant-là, quand il a 13 ou 14 ans, eh bien, lorsque Dieu le demande en sacrifice, on va aller le sacrifier. Ça montre une relation entre les époux, même au sein de la famille, avec le fils, qui est un peu particulière quand même. Donc les combats et les difficultés chez Abraham et Sarah, on les trouve bien. Pour Anne, on sait qu'elle s'est retrouvée veuve après 7 ans de mariage sans enfant. Donc là aussi, le combat, elle l'a connu. Et lorsqu'on se penche sur Joseph et sur Marie, on pourrait se dire, voilà le couple parfait. Ils ont été prévus de toute éternité l'un pour l'autre, par Dieu, pour donner naissance à son fils unique, Jésus, le sauveur du monde. Et voilà que Marie entend une chose, un glaive te transpercera le cœur. Et nous savons que c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc même la Sainte Famille, elle a connu ses combats et ses difficultés. Alors après avoir dépeint un tableau de la famille, du mariage, et encore on n'a pas parlé du fils prodigue, on n'a pas parlé de... Ou même d'ailleurs le passage juste après dans l'Évangile, lorsque Jésus fait sa fugue, bon, les relations avec les enfants ne sont pas non plus naturelles dans la Bible. Après avoir donc dépeint un tableau un peu sombre, qu'est-ce que veut nous dire aujourd'hui cette fête de la Sainte Famille? D'abord que la famille peut être sainte. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et si elle peut être sainte, comme toute chose sur la terre qui est sainte, c'est qu'elle est sanctifiée par Dieu. C'est Dieu qui sauve. C'est pas nous. C'est pas grâce à moi si ça se passe bien dans mon mariage. C'est pas grâce à moi si ça se passe bien dans ma relation avec mes enfants. Alors il faut que j'y mette du mien quand même. Mais c'est pas moi qui sauve. Il faut que je laisse Dieu agir. Il faut que je lui donne une vraie place. Finalement, le but de la famille, comme de toute réalité humaine, ce n'est pas la famille en elle-même. Le but de la famille, c'est le ciel. Pour moi, pour mon conjoint, pour mes enfants, et quand je suis enfant, pour mes parents et pour mes frères et sœurs. Nous deux, nous sommes là, les uns les autres, pour nous aider à monter et à progresser vers Dieu. Si ce n'est pas ça le but, on se complique la vie pour pas grand-chose, quoi. On a besoin, notre objectif, il est grand. Il est grand. Et de fait, ça sera un combat que l'on vit chaque jour. Chaque jour, on peut offrir notre vie, consacrer notre vie à Dieu. C'est quand même beau, justement, qu'on ait eu cet évangile. Jésus est présenté au temple. Il est consacré à son père, tout entier. Les parents le donnent. Et Dieu le rend en échange de deux colombes. Mais en soi, ces deux colombes, c'est comme une location auprès de Dieu. Voilà. Cet enfant t'appartient, Seigneur. Alors Jésus, combien plus ? Mais nous tous, lorsque nous présentons nos enfants au baptême, c'est bien ça ce que nous disons à Dieu. Cet enfant t'appartient, Seigneur. Il n'est pas pour moi, il est pour toi. Chacun de nous est invité à être, a été consacré. Nous avons été baptisés, nous sommes consacrés à Dieu. Alors, est-ce que nous acceptons de le vivre concrètement ? Du coup, ça va impliquer que nos joies, eh bien, nous les rendons à Dieu, nous les donnons à Dieu, elles sont à Dieu, grâce à Dieu, et que nos peines, nous sommes invités à les vivre en union avec lui, avec le Christ sur la croix, avec Marie au pied de la croix. Quand vos enfants vous font souffrir, chère mère, pensez combien Marie a souffert en voyant son fils sur la croix. Puis on pourrait parler de plein d'autres mamans. Alors évidemment, ce n'est pas très confortable. Évidemment, ce n'est pas un chemin de facilité que nous sommes invités à vivre. Mais c'est le chemin de la joie. De la joie ultime, de la vraie joie, celle qui nous attend pour l'éternité. Et du coup, il y aura des moments difficiles, des moments de combat, des moments où on aura l'impression qu'il sera peut-être plus facile de tout laisser tomber. Mais non. Nous sommes invités à entrer dans la fidélité même de Dieu. Dieu qui ne nous laisse jamais tomber, même quand on est insupportable. Alors, humblement, parce que nous sommes tout petits et nous sommes faibles, très humblement, nous accueillons le cadeau que Dieu veut nous faire. C'est sa vie et son amour, pour que nous puissions nous-mêmes vivre pleinement dans cet amour.